9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous êtes fait connaître en 90 par un premier album aux accents de jazz et cette voix rocailleuse qu'on entend là.
Ouais.
Vous venez de vous parler d'un spectacle assez exceptionnel au sens propre du terme. C'est pas galvaudé. On aurait dû le voir en avril, mais elle a été décalée à cause du confinement. Ça s'appelle La Boxeuse Amoureuse. Je vais donner les dates tout de suite. Ce sera à la Scène Musicale à Paris lundi 21 et mardi avec deux représentations, dont une à 19h. Avant qu'on raconte le spectacle, tout part d'une chanson qu'on va entendre dans quelques instants, La Boxeuse Amoureuse. Que raconte cette chanson ?
En fait, à un moment, ma femme m'a dit « Écris une chanson sur ta mère ». Et je me suis mis au piano, j'avais cette musique qui tournait depuis longtemps, et puis bam, La Boxeuse Amoureuse est sortie comme ça. Donc c'est une espèce de portrait sensible, disons, peut-être l'identité secrète de ma maman, d'une femme voilà, qui monte sur un ring. C'est peut-être une image d'une partie de sa vie amoureuse, en tout cas pas la plus heureuse, mais peut-être la plus tourmentée, quoi. Elle a une vie amoureuse pleine de montagnes russes. Donc voilà, c'est une femme qui peut tomber à terre et prendre des coups, pas littéralement, pas physiquement, mais prendre des coups émotionnels, des coups d'amour, tomber à terre, mais qui va toujours se relever et qui va toujours retrouver une forme de grâce.
Vous avez tourné un clip, vous êtes au piano, il y a Roche Dizem, le comédien qui joue, il y a Marie-Agnès Gillot qui est danseuse étoile, clip vu 3 millions de fois, ça vous a dépassé ce succès ?
Ouais, complètement, oui, c'est sûr que par rapport au rap, c'est pas grand-chose,
ouais.
Pour moi c'est beaucoup, quoi. Et du coup, ouais, le clip a une petite magie, et puis ce couple-là qui est vraiment très très beau, Rochdi et Marie-Agnès, ils sont vraiment beaux ensemble.
Marie-Agnès Gillot, c'est elle qui a l'idée d'en faire un spectacle, en voir à la Scène Musicale. Elle avait conçu pas moins de 7 spectacles, du classique, du moins classique, dont La Boxeuse Amoureuse. Et la saison dernière, je l'avais reçue, c'était il y a presque un an, on était début octobre 2019, et je lui avais demandé à Marie-Agnès Gillot de raconter le concept, sa réponse en musique.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse.
Alors racontez, ça vous fait sourire ?
Ouais, mais non, je me souviens des mouvements en fait, je reprends les.
Qu'est-ce qui va se passer ? Alors il y aura Arthur H qui sera là ?
Oui.
Vous serez là ?
Oui.
Il y aura Roche Dizem ou pas du tout ?
Non, il y aura Souleymane Sissoko.
Ouais. Et on verra quoi ? Vous allez danser ? Avec Arthur H. au piano, qu'est-ce qui va se passer ?
C'est pas encore créé, mais
d'accord.
J'aimerais bien vraiment créer un vrai match de boxe, mais vraiment en chorégraphie. C'est mon art de m'identifier à du réel alors que c'est faux.
Alors qu'est-ce qu'on va voir sur scène ? Vous savez ou pas ? Attendez, je vais dire aux auditeurs ce que m'a dit Arthur H. en entrant. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va voir sur scène ? Et il m'a dit, je peux pas vraiment répondre, on le sait pas encore vraiment.
Non, c'est pas ça, mais c'est que ce genre de spectacle, toi, t'as des spectacles que tu peux préparer pendant des mois, si tu fais là, il y aura quand même quelque chose de spontané, de direct. Après, Marie-Agnès se prépare, tu vois. Nous, je me préparais avec mon ami musicien Nicolas aussi. Et après, il va y avoir la magie de la rencontre entre cette danseuse magnifique, ce boxeur extraordinaire qui vont être sur scène.
Ils vont être sur scène en même temps ?
Ah oui, bien sûr.
Il va pas boxer Souleymane Sissoko, c'est pas comme dans le sketch des Monty Python.
Il va attaquer Marie-Agnès, il va essayer de se défendre. Nous, on va essayer de défendre Marie-Agnès et on va tous. Non, t'inquiète pas, non, c'est pas un vrai match de boxe. Ça sera figuratif, quoi, en tout cas symbolique, en tout cas j'espère. Ou alors, il faut que je commence la boxe tout de suite, mais là, c'est un peu tard, je pense.
La chanson dure 3 minutes, le spectacle va durer combien de temps ?
Le spectacle, malheureusement, il va être court parce qu'il y a des restrictions.
Ouais.
Donc, c'est 1h15.
D'accord.
Ouais.
Non, mais alors, quelle est la musique que vous avez composée autour de ça ?
Alors, la base, en tout cas, quand il y aura Marie-Agnès et Souleymane, on va faire plusieurs versions de La Boxeuse Amoureuse, une version étendue, élargie, plus un moment, je pense, de transe. Je trouve, enfin, moi j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup la boxe, et la boxe peut effectivement parfois être une danse, Donc je pense que Marénès, elle va chercher ça. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment le corps dans sa splendeur, quoi, dans son expression. Et puis nous, tout simplement, en tant que modestes musiciens, on va essayer de fabriquer un tapis volant en dessous, tu vois, pour que tout le monde puisse décoller, quoi.
Tout ceci a l'air très inattendu. Et ça tombe très bien puisque dans un instant, on va recevoir Hélène Manarino pour son portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arthur H, on a parlé de La Boxeuse Amoureuse, c'est un spectacle qu'on va voir bientôt. Il y a aussi un livre qui s'appelle Fugue, dont on va parler. Mais d'abord, je vais vous présenter Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Arthur H. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Arthurito, tuture, vous pouvez réagir en disant...
Déjà, il a ri.
Zonga, c'est le mot que vous dites tout le temps après une phrase apparemment. Mais avant toute chose...
Ouais. C'est vrai ?
Bunga, ouais. Unga, unga.
Unga.
Ah. Unga, ouais. Et après, je me suis aperçu que c'était le cri de Tarzan, Johnny Westmuller, pour appeler les éléphants.
Et ben ouais.
Donc peut-être ça vient de quand j'étais petit. Ouais.
Avant toute chose, concentrons-nous. Et pour que ça marche, vous avez souvent besoin de ça. Brian Eno, oui, Arthur H, de plus en plus de calme, de méditation. C'est ce que vous avez découvert pendant le confinement, avec le yoga également. Et puis, nouveau rituel bien-être, du citron avec du bicarbonate au petit déjeuner,
ah
avec
ouais.
des bananes oh, et des
même.
Amandes.
Pardon, c'est dégueulasse le citron avec du bicarbonate.
J'ai révélé mon petit déjeuner à la fraîche du monde entier.
Ouais. Et oui, et c'est pas fini. Vos repas préférés, les légumes et du riz tout seul, plus plat désormais appelé le riz tout con. Esprit sain.
Ah, mais vous avez parlé à ma fille quand même, non ?
Je ne sais pas.
L'enquête policière.
Attendez, vous êtes au début de l'enquête.
On est au début de l'enquête. Esprit sain dans un corps sain. Mettre des micro-siestes absolument partout où vous vous trouvez. Oui. Avant un concert, il y a votre thé citron miel et votre petit carré de chocolat noir, 70% bio. La solitude pour travailler dans les Landes, votre lieu de prédilection. Ou alors pendant les vacances, récemment dans une maison d'un de vos amis, vous vous projetiez le film La Dolce Vita de Fellini, sans le son, et vous faisiez vous-même la musique en même temps.
Waouh.
Et oui.
Ouais.
Le nouvel Ennio Morricone.
Que voilà. vous aimez beaucoup, ouais. d'ailleurs. Que vous aimez beaucoup. Alors, Arthur H, patron de vos destinations, bon, vous détestez les GPS, vous râlez systématiquement quand il y en a un.
Oui.
Pourquoi vous détestez les GPS ? Vous aimez bien vous perdre ?
Non, j'aime bien trouver tout seul, ouais. comme un grand, quoi.
Ouais.
Comme un aventurier.
Ouais. Mais si on arrive au dessert alors que c'est le dîner ?
Oui, bah, parfois je l'utilise.
Mais heureusement, dès que vous montez dans votre voiture, il y a cette musique qui démarre.
Les amours
perdus. Serge Gainsbourg.
Ok, je connais vos sources maintenant.
Arthur H, vous avez toujours été très concentré, un enfant curieux de tout, fan de Pif le Chien, de Rahan, des Vikings. Bercé par l'histoire racontée par votre maman, trois hommes dans un bateau. Mais surtout à l'âge de 10 ans, passionné par une période de l'histoire, la Commune, 1871. Et surtout par les communards, vous aviez appris qu'ils étaient enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Alors tous les mercredis, vous preniez le bus tout seul avec seau, pelle, sac plastique et vous nettoyez leurs tombes.
C'est vrai ?
Et vous étiez très fier. À 10 ans. Alors, c'était votre côté punk, un petit peu, que vous avez très vite adopté grâce à eux. Riders on the storm.
Into this house we're born. Là, vous avez malheureusement commis une erreur fatale.
Ah oui,
ah non,
parce que punk, c'est Sex Pistols, c'est pas les Doors.
Mais, alors, vous savez, c'est ma phrase d'après. Il y a les Doors, mais il y a surtout les Sex Pistols.
Ah oui, oui.
Voilà,
d'accord.
Vous pouvez vérifier. Votre punk aussi.
Non, mais il y a quand même des gens, je vais la défendre, qui disent que Jim Morrison était un des premiers des punks. Allez-y, Hélène.
Que vous
voilà,
êtes,
oui.
Ouais,
je la
mais
sauve.
Pas musicalement.
Ouais, ouais, ah non, ça, on est d'accord.
Bon, on va faire un débat sur la musique
il a
après.
Fini pareil. Il a fini
je vais finir
pareil.
Votre portrait.
Hélène.
Punk aussi dans un club de vacances à l'âge de 14 ans où tout le monde était en maillot de bain autour de la piscine en train d'effectuer les danses du club et vous êtes resté toute la semaine habillé en noir sans vous laver les cheveux, quand même.
Ouais.
Vous vous souvenez ?
Ouais, à 14 ans.
À 14 ans. Alors Arthur H, vous faites surtout attention à vos affaires. Alors longtemps, il y a très longtemps, vos figurines se trouvaient dans le frigo. Vous en preniez soin, quelques figurines.
Ah ouais, ça c'était il y a longtemps.
Et puis il y a surtout votre plus grande passion.
Ah ouais.
C'est quoi?
Star Trek.
Vous connaissez tout par cœur depuis l'épisode 1 de la saison 1.
Oui, je suis un vrai trekkies. Un peu moins maintenant, mais quand même.
Alors, vos goûts sont assez éclectiques, puisque pour apprendre la basse, vous déchiffrez du Bach et vous avez surtout un chant diphonique. Vous êtes capable de sortir deux notes en même temps.
C'est pas vrai.
Démonstration.
Je crois que c'était impossible.
Ah putain, c'est pas évident là. Alors, chant diphonique sur Europe 1, première. Oh putain, non, je vais pas y arriver parce que j'ai envie de rire et c'est vachement dur de faire du chant diphonique en
On le fera tout à l'heure.
Mais vous avez surtout l'oreille absolue, sûrement grâce à votre stage chez Tomatis, un professeur spécialiste de l'oreille interne. Bon, vous avez été viré d'un cours suite à un fou rire.
Encore.
Et votre papa, Jacques Higelin, avait vu juste, il disait cette phrase: le plus grand atout d'Arthur pour les femmes, ce sont ses oreilles.
Ah ouais, peut-être.
Et oui. Votre compagne, justement, a bien entendu, elle vous émeut souvent en chantant ça. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty est la fille de Gérald. Alors vous allez bientôt être papa une nouvelle fois. Alors vous êtes en train de lire un livre, mais je ne peux pas donner le titre car il porte le prénom de votre futur enfant.
Ouais.
Alors Arthur H, votre route, vous la connaissez par cœur, fidèle à vous-même, sans jamais changer de direction. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais semé votre public.
Wow. Merci Hélène.
Merci.
Vous pouvez tenter la diphonie.
Attends. Non, je ne vais pas y arriver, franchement.
On va le faire après, pardon pour cette mise en scène.
Restez là.
Vous restez, Hélène, on se retrouve très très vite.
Évidemment.
Voilà, les Sex Pistols.
Mais ils sont là, les Sex Pistols.
Je les danse quand même,
punk.
Non
voilà.
Dans un instant, on part à la découverte d'une nouvelle série Netflix avec notre indispensable Margot Barallon, No Future. Tiens, sers-moi une bière.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Arthur H, je le rappelle, la boxeuse amoureuse, c'est à la scène musicale. Ce sera les 21 et 22 septembre avec Marie-Agnès Gillot, la danseuse étoile, et Souleymane Sissoko, le boxeur, ancien champion de France. Et là, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. Même si vous n'avez jamais acheté ou téléchargé un titre d'Arthur H, qui a eu des victoires de la musique, plein de choses comme ça, vous avez sûrement déjà entendu cette voix. Elle est passée très, très, très souvent sur Europe et sur d'autres radios. La preuve.
Un joli haut en soie avant le cours de yoga, un sac de gourgandine à l'heure de la cantine, à pichauffé, mon temps est maîtrisé.
Tout le monde se marre dans le studio. C'était mais donc c'est... vous. Je me disais, mais il a ce type qui chante, il a la voix d'Arthur H. En fait, c'est vous.
Ah ouais, il a vraiment la voix d'Arthur H.
Ouais,
c'est
mais
dingue,
c'est vous.
Hein. Ah non, c'est pas moi. Non.
C'est vous qui écriviez les textes?
Non, quand même pas, non.
Parce que je me suis dit, quand même, pour laisser passer un sac de gourgandine.
Non, non, moi c'est un truc qui m'a pris 20 minutes à faire, hein, vraiment. Ouais. Et après, j'ai mis de l'argent de côté. C'est une petite boîte d'édition pour m'acheter un. Parce que mon rêve, c'est de m'acheter un studio, vraiment.
Ouais.
Donc voilà, cet argent de la publicité, je le mets de côté pour m'acheter un studio. Voilà, c'est la vérité.
Voilà.
Je plaide coupable.
Premier album en 90, en 93, vous étiez révélation masculine aux Victoires de la Musique. Victoire de la Musique en 2009. Les albums Adieu Tristesse et L'Homme du Monde certifiés disque d'or. Et je vous ai entendu dire qu'à part votre premier album, vous avez vécu la sortie de tous les autres comme autant d'échecs. Comment c'est possible?
Bah, c'est possible, c'est comme ça, quoi. C'est pas, ce sont pas le seul dans ce cas-là.
C'est
même
Adieu
Tristesse, par exemple,
ouais,
qui était un beau succès, tu vois.
Mm-hmm.
Enfin, vous voyez,
mm-hmm,
c'était un très beau succès, mais après, pour moi, ça a fini comme ça, comme une espèce d'eau de boudin. Le live, on a sorti un live qui a pas marché du tout. Enfin, j'ai pas du tout eu l'impression d'un succès. J'ai eu l'impression d'un succès plusieurs années après, en fait.
Ouais.
Mais pas au moment même.
Ça va finir comme L'Homme à la tête de chou. Je crois que Gainsbourg en a vendu 5000.
Ouais, ouais, ouais. C'est disque avant aux armes, etc. Ouais.
C'est tout le malheur que je vous souhaite. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe.
On va parler série. C'est une série qui a un succès ou pas? On ne sait pas. Ça
on
sort demain
pas,
sur Netflix.
Ça sort demain.
Qu'est-ce que c'est?
Ça s'appelle Away. C'est loin en anglais et c'est une série qui va vous emmener dans l'espace. L'histoire, c'est celle d'Emma Green, interprétée par l'actrice Hilary Swank. Elle est astronaute américaine et se retrouve au début de la série commandante de la mission Atlas avec quatre collègues d'autres nationalités. Et ensemble, ils ont la lourde tâche de se lancer dans ce que personne d'autre n'a fait avant eux, poser le pied sur Mars.
Atteindre Mars sera probablement la plus grande de toutes les réussites humaines. Non seulement pour la science, mais aussi pour l'avenir de notre planète.
Sans oublier que ça va être un voyage d'enfer.
Et oui, ce sera un voyage d'enfer, mais attention, dans tous les sens du terme.
C'est-à-dire, ça se passe mal?
Bon, en même temps, si ça se passait super bien, hein, ça ne ferait probablement pas une série.
Ouais, enfin, un épisode.
Mais c'est même un peu le problème parfois. Il faut accepter en tant que spectateur qu'à peu près tous les incidents possibles et imaginables arrivent aux personnages. Même si ce sont toujours des mésaventures très réalistes, c'est parfois un peu too much. Dès le début, alors qu'Atlas se dirige vers la Lune pour faire une étape avant Mars, un problème technique perturbe le vol. Alors rien de grave, mais Emma Green n'a pas tout à fait la bonne réaction et les astronautes sous son commandement deviennent très sceptiques.
On a déjà vu comment elle réagissait en cas d'urgence. Comment elle va faire pour commander avec ce genre de stress?
Il en faut un vrai commandant.
Oh, comme toi, par exemple, c'est ça?
Et pourquoi non? Parce que je suis russe?
Non, parce que tu n'es pas dans la chaîne de commandement.
Lui, il l'est.
Les Américains ont eu tort de prendre Emma plutôt que vous, Jack.
Ben, jamais trop tard.
Pardon?
On peut dire au centre de contrôle qu'on a une confiance totale en Jack.
Je suis entraîné pour prendre le relais, mais... Donc tu parles de mutinerie?
Donc voilà, le groupe vit pas très bien. Et ajoutons à cela qu'au moment de quitter la Lune, Emma apprend que sur Terre, son mari a fait un AVC. Vous avez une petite idée de ce que va être ce voyage d'enfer.
Mais du coup, c'est une série de science-fiction ?
Eh bien non. Pas du tout. Alors certains pourront trouver ça frustrant. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi avec eux. Oui, je rassure Arthur H., le grand fan de Star Trek, on vous embarque quand même dans un vaisseau. Vous avez un budget, une production insuffisante pour avoir de très bonnes séquences dans l'espace, avec du frisson, de l'action.
Ouais.
Mais au fond, c'est avant tout un drame, parce que ce voyage vers Mars dure 3 ans. Que tous les astronautes laissent des gens qu'ils aiment derrière eux. Vous avez des personnages qui devraient être hyper excités et qui sont en réalité constamment ramenés sur Terre, traversés par le manque des autres, de leurs proches. Plus ils s'éloignent, plus les communications sont difficiles. Oui, c'est donc en fait une série sur l'arrachement. Un peu comme si on avait croisé, pour ceux qui connaissent, la série This Is Us et le film Apollo 13. Alors certes, il ne faut pas avoir peur du mélodrame, mais c'est une belle découverte à la croisée des genres.
Apollo 13, j'adore, parce que tout est vrai, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment passé. Ça vous tente, Arthur H?
Un voyage sur Mars?
Non. Le gars, il est toujours l'étape d'après. Non, cette série.
Bah oui, j'imagine que ça doit être sacrément difficile, surtout s'il y a une mutinerie, un AVC, il se passe plein de trucs. Quoi.
Ouais. Vous êtes fan de séries à la base ou pas?
Un petit peu, de temps en temps.
La dernière que vous avez vue?
Il faut être un peu déprimé pour se voir des séries très longtemps, parce que c'est... Si je suis déprimé, oui, je vais regarder des
vous
séries.
Vous faites rire Margot Barallon, c'est vrai qu'il faut être déprimé pour regarder beaucoup de séries.
Ben, non, mais c'est vrai que la série se prête bien à la dépression.
Oui, voilà, la série marche bien avec la dépression.
On va se quitter sur cette note d'espoir. Culture Média continue à parler de comics. Restez avec nous, Arthur H. Merci beaucoup, Margot. À très vite.
Merci.
Ah oui, il fallait que j'annonce la musique, je l'ai oublié. Dans un instant, le deuxième indispensable du jour, c'est un comics, je l'ai dit. Mais d'abord, justement, le titre de notre invité, Arthur H., la boxeuse amoureuse.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arthur H., Fugue, on va en parler tout à l'heure. La boxeuse amoureuse qu'on vient d'entendre, c'est un spectacle, on va en reparler. Mais là, notre deuxième indispensable, c'est avec vous, Clément Le Saff. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est pas un jeu vidéo. De quoi nous parlez-vous? En fait, je le sais, vous allez nous parler de comics.
Eh oui, de comics, c'est pas n'importe lequel. Un comics qui s'appelle The Boys, qui a été adapté en série. Ça a commencé l'an dernier, c'était sur Prime Video, une série que nous avait recommandée notre spécialiste Margot. Et moi, je vais donc vous parler du comics cette fois, puisque tout est lié dans la pop culture, tout se transforme. Alors déjà, je vais vous recommander, au-delà de Margot, moi-même, la série The Boys, qui est très très bien, très jouissive à regarder. Mais figurez-vous que le comics est encore plus dingue. Les 7 tomes qui composent cette saga ont été publiés entre 2006 et 2012. J'ai rattrapé moi tout ça cet été, et j'ai pris mon pied.
Alors, racontez-nous l'histoire, Clément.
Bah, pour résumer, c'est une BD satirique qui se moque, sans prendre de gants, des super-héros, les Boys du titre. C'est un groupe de 4 mecs et une fille, couverts par la CIA. Leur job, c'est de tenir en laisse les super-héros. Rien que ça. Alors vous allez me dire, pourquoi s'inquiéter de héros qui sont censés sauver l'humanité?
Bah
eh
oui.
Bien, parce que dans le monde de The Boys, les super-héros sont tous complètement givrés. En public, tout va bien, ils aident les gens, ils ont le sourire ultra bright. Mais en privé, ce sont de vrais psychopathes, ivres de pouvoir et d'argent. Ils font n'importe quoi, ils tuent et ils violent des innocents, sauf que personne ne le sait.
Ça arrive parfois que les médias relaient l'info sur un accident, comme avec Robin. Mais de manière générale, ils s'arrangent pour mettre la poussière sous le tapis.
Pourquoi ?
À ton avis. Billets de cinéma, merchandising, parcs d'attractions, jeux vidéo. C'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars, qui est défendue par des armées de lobbyistes et de politiciens de tous bords.
Voilà, The Boys raconte donc la chasse que mène ce petit groupe de mercenaires déjantés à des super-héros qui le sont encore plus qu'eux. Mais là où c'est doublement cynique, on l'a un peu entendu dans cet extrait, c'est que tout cela se passe dans un monde où les super-héros ont été privatisés par une énorme entreprise qui s'appelle Vought America. Toute ressemblance avec Disney serait purement fortuite. Elle a transformé les Vengeurs masqués en purs produits commerciaux. Exemple tiré à nouveau de la série Stella, une super-héroïne a sauvé une jeune femme sur le point de se faire violer. Plutôt une bonne action, donc. Problème, elle l'a fait sans son costume et elle a été filmée. Alors Vought lui reproche d'avoir agi jusqu'à ce que le marketing s'en mêle.
La fille qui se faisait violer, la victime, elle a vu cette vidéo sur YouTube et elle veut vous remercier de l'avoir sauvée.
C'est une bonne nouvelle, non?
C'est une nouvelle extraordinaire. Tu casses la baraque dans tous les sondages. Tu fais une grosse progression auprès des hommes pour cet acte courageux, mais auprès des femmes aussi. T'es devenu un symbole. T'as gagné 16 points chez les hommes entre 18 et 49 ans, y compris dans les bassins libéraux et gauchistes comme New York et San Francisco.
C'est un peu les super-héros façon baromètre opinion way. Ouais. Tout le sel de The Boys, en fait, est là. Ça se moque des super-héros, mais aussi, bah, quelque part, de nous, de notre propension, finalement, à placer nos icônes sur un piédestal, sur la simple base de leur image publique.
Mais juste un mot, la série est adaptée des comics. Donc, ça veut dire que si on regarde la série, on connaît déjà l'histoire.
Alors, en partie, mais pas totalement. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, moi, je trouve, puisque les showrunners de The Boys ont adapté très librement le comics. Il y a des passages en commun, des scènes marquantes qui ont été reprises. Le fil rouge reste le même, mais les deux récits sont assez différents. Là où la série fait beaucoup de place aux super-héros parce que c'est plus vendeur pour le grand public, le comics lui se concentre vraiment sur ce groupe, les Boys, et puis il y a le ton. La série va déjà assez loin dans le trash et la provoque, mais le comics est d'un tout autre niveau. L'auteur, qui s'appelle Garth Ennis, il est un peu au comics que Bret Easton Ellis est à la littérature. Oh, c'est non. Sexe, drogue, violence et rock'n'roll à chaque page. L'auteur ne respecte absolument rien. C'est un vrai Big Bang du genre super-héroïque. Je préviens quand même, au cas où, hein, c'est pas un comics à mettre entre toutes les mains, public jeune et ou sensible s'abstenir. Pour les autres, foncez parce que vous ne le regretterez pas. C'est très très drôle. Et comme le dit Billy Butcher, le chef des Boys en VO, s'il vous plaît.
Holy fuck! That was diabolical!
C'est diabolique.
Ouais, c'est diabolique. C'est le premier mot, je l'avais bien compris, il n'y avait pas besoin de le traduire. Merci beaucoup Clément Lossaf, ça vous tente Arthur H? Vous êtes fan de comics? Parce qu'on sait déjà que vous êtes fan de Pif et de Raon.
Donc oui, là, mais ça c'était quand j'avais 8 ans.
Ah, j'avais pas compris.
Je plaisante. Quand même.
Non, blague à part, vous êtes fan de comics ou vos enfants?
Non, pas vraiment, non, mais ça a l'air très violent, mais ouais, ça a l'air intéressant.
Effectivement, c'est pas pour les enfants.
Très violent.
Voilà, et on ne peut pas montrer toutes les images à la caméra sur Europe1.fr.
Alors que Pif, c'était pas violent.
Comment? Mais pas du tout.
Enfin, si, quand même, Hercule, ouais. Il en prenait plein la gueule.
Ouais, et ouais. Il s'engueulait parfois avec Pifou. Glop, restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Arthur H et une surprise.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Arthur H, pianiste, compositeur, musicien et aussi chanteur, cette voix avec du papier de verre un peu dedans, c'est la vôtre ou vous l'avez travaillée ou c'est votre voix naturelle, Arthur H?
Non, c'est ma voix naturelle, au contraire, je travaille pour l'éclaircir, pour être libre dans ma voix, chanter aiguë, parfois avoir une voix très féminine.
Ouais.
Avoir une voix très forte, avoir une voix très douce, j'ai juste envie d'être libre en fait.
Un jour vous avez dit, je suis un crooner contrarié, et ce qui est amusant c'est qu'au départ, vous avez la voix très très claire. On a un document, c'est une chanson de votre papa, le regretté Jacques Higelin, ça s'appelle Crabouif, on est en 71, et vous avez 5 ans.
Le petit tambour du roi, le petit tambour du roi, je me rappelle plus de la suite.
J'adore, ça dure 50
secondes. On me reconnaît bien quand même.
Ouais. Ça dure 50 secondes comme ça. Je passe ce son parce que je voudrais parler de Fugue, c'est votre autre actualité. C'est un récit autobiographique qui était sorti au Mercure de France l'an passé et qui sort en poche la semaine prochaine. Ça raconte votre vie, votre enfance, surtout votre maman, un peu votre papa. Il y a des moments très très forts. Vous racontez cette scène, vous avez 15 ans, vous êtes à Pointe-à-Pitre avec votre papa Jacques Higelin, son pote Coluche, votre petit frère. Vous êtes à l'aéroport, vous êtes sur le point de rentrer à Paris. Et là, au moment de passer la douane, vous fuguez et vous partez, vous quittez l'aéroport. Mais le plus dingue, c'est que votre père prend l'avion quand même.
Ouais.
Votre mère, elle lui dit quoi? Ils n'étaient plus ensemble, hein?
Oui. Ma mère, écoute, elle était juste absolument stupéfaite, quoi. Évidemment qu'elle, elle serait restée. Mais après, je raconte la conversation, quand il l'a appelée, quand même, 2 jours avant, elle a dit « Alors, on est bien rentré de voyage et tout ça, ok, d'accord, et Arthur, il est où ?»« Arthur, je sais pas. » »« Comme ça, tu sais pas, il est pas rentré avec vous ?»« Non. Mais il est où ?»« Je sais pas.
Et il a dû lui dire, vous étiez à Pointe-à-Pitre, mais vous avez fait quoi à Pointe-à-Pitre, sans argent, sans connaître personne à 15 ans?
Oui, oui, après, c'était pas non plus... j'étais pas SDF, je suis retourné sur le bateau avec des gens que je connaissais, tout ça.
Ouais.
Mais ma mère le savait pas.
D'accord. Et maintenant, avec votre fils, quand vous l'avez emmené dans les Antilles, vous avez eu peur qu'il fugue?
Non, ça va, non, j'ai pas eu peur.
Ouais. On a une petite surprise pour vous.
Ouais,
Hélène encore. Est revenue dans le studio.
Je suis revenue, et oui. Alors, Arthur H., on va entrer dans le vif du sujet. Si je vous montre ça...
Héritage, ouais.
Le magazine Que Choisir.
Ouais.
On est sur une passion avec ce magazine Que Choisir, Arthur H. Ah, vous oui, avez oui. pris ah un bon abonnement pour cette année. Alors, ouais, un ouais, ouais. de vos rituels le matin, c'est de lire la rubrique Courrier des lecteurs.
Ouais.
Les lecteurs partagent leurs mécontentements, leurs mésaventures dans leur quotidien et cela vous passionne. Même plus que ça, vous avez tendance à les lire à haute voix, les interpréter. Ces annonces deviennent presque théâtrales et elles sont parfois enregistrées. Mais vous ne le savez pas toujours. Ouais. Notamment une histoire qui vous a passionné, que vous avez pu lire à votre fils avant qu'il parte en cours. Une histoire de drone. Alors, j'ai pas pu résister, Arthur H., parce que je suis là pour absolument tout dire. Nous avons ces enregistrements.
Non.
Alors,
non.
ils ne restent plus dans votre cuisine. Ils sont maintenant dans les mains de tous. Arthur H. qui lit Que Choisir.
Autour de ma propriété, j'ai installé des panneaux comportant la mention propriété privée, défense d'entrée. Si un drone survole mon terrain, puis-je le détruire? Détruire un drone survolant votre propriété n'est pas autorisé. Son propriétaire pourrait porter plainte contre vous pour dégradation volontaire. Article 22.1 du Code pénal. En outre, si vous lancez un projectile qui atteint l'appareil en vol, vous risquez d'entraîner sa chute. Logique. Laquelle est susceptible de provoquer des dégâts, comme casser une vitre ou pire, blesser quelqu'un. Votre responsabilité civile serait alors engagée par des victimes voulant être indemnisées de leur préjudice. Article 1240 du Code civil.
Mais c'est voilà. complètement lunaire.
Vous comprenez pourquoi j'aime Que Choisir.
Et alors, il y a
pourquoi
deux jours...
Pourquoi je surkiffe Que Choisir.
Il y a deux jours, vous vous êtes dit, est-ce que je m'abonne de nouveau? Est-ce que vous allez le faire?
Bah, c'est une vraie question que là vous me posez. C'est une question ouais. intime, c'est une question difficile, c'est une question qui demande du temps.
Je vous laisse.
Mais c'est une bonne question.
Et un truc
merci.
De dingue.
Merci de me l'avoir posé en tout cas.
Vous ne direz jamais ce que j'ai fait il y a deux jours.
Vous êtes abonné à Que Choisir.
Comment vous avez deviné? Merci Arthur H. d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Fugue, ça sort chez Folio. Ouais. Et le spectacle La Boxeuse Amoureuse, allez sur le site de la scène musicale. Ça sera le 21 et le 22 en live avec Marie-Agnès Gillot et un boxeur, et de la vraie boxe, mais quand même, il n'y a pas boxé Marie-Agnès Gillot et vous
non.
au piano.